Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié là aujourd'hui pour vous faire un petit point de ce qu'on propose à Humanum en termes de d'outils de pérennisation, outils de stockage, outils de diffusion aussi des données. Alors j'ai donc effectivement, comme ça a été dit en introduction, c'est un domaine qui évolue beaucoup en ce moment. Il y a outre la recommandation du conseil scientifique du CNRS qui a été signalée tout à l'heure, qui date d'il y a quelques jours maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau national d'une part, mais aussi au niveau international. Et donc je vais un peu, en filigrane de ma présentation, je vais un peu replacer en fait tout ce qui se fait au niveau national, en particulier dans les infrastructures, mais aussi... je pense dans les maisons des sciences de l'homme, qui sont un des acteurs majeurs dans l'accompagnement des programmes de recherche en France. Je vais replacer ça un peu dans le contexte aussi international. C'est pour essayer de vous montrer qu'en fait, à une toute petite échelle, c'est-à-dire au niveau de l'échelle d'un programme de recherche, dans une petite équipe où on n'a pas forcément énormément de moyens humains, en termes de ressources, on peut contribuer, participer à des dispositifs qui vont être internationaux. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer un peu au travers de la présentation. Donc je suis le directeur technique d'Humanum depuis quelques années maintenant, que j'ai cofondé. Et donc Humanum, c'est ce qu'on appelle une très grande infrastructure de recherche. Je vais en dire deux mots. Et donc c'est un dispositif qui est financé sur le long terme par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui est donc porté par plusieurs établissements qui rendent les choses opérationnelles. Alors à Humanum, donc, on s'intéresse à tout ce qui est les documents, les données, les référentiels, les objets, en fait, hein, que ce qu'on pourrait appeler les matériaux que les chercheurs et que les enseignants-chercheurs utilisent pour faire de la recherche. Ces matériaux, aujourd'hui, sont massivement devenus numériques. Ils sont à disposition ou pas à disposition en matière de réutilisation des données. Ce sont des matériaux fragiles, surtout quand ils ne sont que numériques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de documents qui ne seront jamais issus d'un processus de numérisation, mais qui sortent de différents capteurs. Et donc ces matériaux, il faut les préserver, les organiser, les rendre accessibles à l'intérieur du programme de recherche. Mais aussi, il faut les promouvoir, il faut les diffuser et il faut les rendre réutilisables, pas uniquement dans une perspective d'ailleurs d'open science ou d'open data, c'est-à-dire réutilisables par d'autres, mais aussi réutilisables dans quelques années par les mêmes chercheurs qui les ont générés. Ça, des fois, c'est facile de faire de l'open data. Il y a plein de choses pour en faire. C'est moins facile, des fois, de rendre finalement ces données réutilisables par soi-même, en fait, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est ça, on travaille un peu sur cette question-là des matériaux des scientifiques, des matériaux des chercheurs, quand ils sont passés dans le numérique. Alors en fait, ça, aujourd'hui, ça touche pas mal d'objets, en fait. Hein. Ça va des fonds d'archives ou des données de terrain. Commence à avoir à Humanum l'arrivée de ce qu'on appelle des lacs de données structurées, c'est-à-dire c'est des dispositifs de captation. Je pense en particulier dans le monde de l'archéologie, où il y a des drones aujourd'hui qui font du relevé automatique et qui alimentent des bases de données automatiquement à l'autre bout du monde. Et les chercheurs viennent nous voir en nous disant « Mais voilà, moi j'ai accès à cette base de données-là qui est alimentée par des robots, hein, en gros, je simplifie à l'extrême. » Il y a 30 millions de lignes de code à l'intérieur qui regroupent des données venant de la planète entière. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme outil à Humanum pour traiter toutes ces 30 millions de lignes de données, etc. Hein? Donc ça va de simples fonds d'archives qu'on a numérisés ou qu'un chercheur va photographier avec son téléphone portable à ce genre de dispositif-là. Donc vous voyez que l'étendue de la typologie des objets numériques aujourd'hui, elle est un peu diversifiée. Hein? Alors, une des missions principales qu'on s'est donné et que le conseil scientifique d'Humanum et le ministère en particulier nous, nous, nous a donné, c'est d'accompagner un peu ce qu'on pourrait appeler la curation des données, l'entretien des données SHS, une fois que ça a été mis à disposition dans des bases de données ou dans des entrepôts de données. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Alors j'ai essayé de le modéliser sous la forme d'un petit schéma. C'est très important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, comme on a un dispositif de financement de la recherche qui fonctionne par projet, en fait, hein, en gros, on peut avoir des périodes de ce qu'on pourrait appeler des périodes de disette, où entre deux programmes de recherche financés, on va avoir des périodes où on a moins de financement, où il va falloir en fait s'appuyer sur des infrastructures pour pouvoir mettre ces données et les rendre, les avoir sous la main, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir un jour avoir, dans le cas d'un autre programme financé, accès à ces données-là. Donc là, j'ai essayé de modéliser un peu ça. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire à Humanum, c'est mettre en place des dispositifs techniques, mais aussi d'accompagnement humain, pour que des programmes ANR, par exemple, puissent gérer ces périodes un peu de disette financière, et de les gérer, alors pas uniquement sur les aspects de curation de données, mais aussi de préparer l'avenir, c'est-à-dire d'avoir des temps de réflexion pour modéliser la connaissance, modéliser des bases de données, modéliser des données, et les inscrire dans des dispositifs qui les rendront un jour réutilisables. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas neutre, parce que ce n'est pas tellement dans la culture sciences humaines et sociales où, en fait, on va consommer de la donnée, on va faire de la publication, puis après, on va jeter la donnée parce qu'on est passé à l'étape de la publication. Or, aujourd'hui, avec ce dispositif-là de financement par projet, c'est très important de pouvoir bien gérer ces périodes entre les projets pour pouvoir ensuite rendre retrouver des données, en fait, et les réutiliser, mais alors presque, j'ai envie de dire, pour soi-même, quoi. Donc c'est assez important. Alors c'est d'autant plus important que quand on regarde au niveau international, tous les dispositifs de financement de la recherche au niveau international fonctionnent sur ce principe-là, et que du coup ça permet aux scientifiques français, aux collègues dans les laboratoires, de se mettre un peu au diapason de ce qui se fait dans d'autres pays. Et là, j'ai envie de faire un peu un cocorico, parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps en visitant pas mal d'universités aux États-Unis et au Canada. On a un dispositif en France qui est assez mûr aujourd'hui en sciences humaines et sociales, parce qu'on a des infrastructures de recherche, parce qu'on a des maisons des sciences de l'homme. En fait, on a un réseau qui est de support de ce genre de dispositif qui est assez mûr, qui est bien installé. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, au Canada, que je connais un peu maintenant, où, en fait, on a ce genre de processus de la recherche, mais on n'a pas Humanum entre les périodes de disette et on n'a pas les maisons des sciences de l'homme. Donc, en fait, ils sont toujours obligés de repartir de zéro dans les demandes de financement au FCI, par exemple, canadien. On voit arriver des projets où on voit bien qu'ils sont obligés de repartir, pas de zéro, mais de beaucoup plus loin que nous, hein. Voilà. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais dans quelques jours là, voir le FCI au Canada, parce qu'on essaye d'installer un Humanum pour le Canada, en fait, aujourd'hui. Voilà. Alors, qui ne sera pas Humanum, qui ne sera pas l'équipe d'Humanum, hein, je vous rassure, on va rester en France. Mais on est en train de créer une équipe qui va être le Humanum Canada, hein, sur le modèle de Humanum France. Bon, alors, du coup, il y a quelques enjeux autour de tout ça. Je vais aller beaucoup plus vite, comme ça. Alors, parce que le numérique redéfinit les enjeux de travail collectif autour de la donnée, évidemment, il y a des tensions qui apparaissent entre des pratiques un peu historiques qui ont souvent plusieurs dizaines d'années, voire quelques siècles, des fois, en particulier dans le traitement des archives. Alors là, je parle pour les historiens, etc. Mais il y a un enjeu majeur qui est l'enjeu de la stabilité de l'accès et de la stabilité de la donnée. Ça, c'est un enjeu sur lequel on travaille beaucoup à Humanum, sur lequel on essaye de traduire ça dans des dispositifs. Et c'est assez important, ces aspects de stabilité de l'accès à la donnée. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la base pour des chercheurs et des enseignants-chercheurs de, on va dire, la crédibilité d'un dispositif numérique, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une infrastructure de recherche qui passe son temps à mettre des briques technologiques mais qui les change tous les 3 ans, vous ne créez pas de stabilité. Et or, les processus de recherche sont des processus où on a besoin d'installer de la stabilité pour pouvoir travailler et pour pouvoir construire, en fait, un écosystème. Donc c'est sur ça qu'on essaye aussi de travailler à Humanum. Alors du coup, en fait, on travaille pas seul à Humanum, on est dans un écosystème, je le disais. Alors, même si nos services et nos communautés, en fait, vont se centrer sur quelque chose qui ressemble à ce cycle de vie-là, c'est-à-dire qui va de la collecte à l'analyse de données, à la diffusion et à la préservation des données, en fait, on va travailler dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des bibliothèques, on va travailler avec des centres d'archives, on va travailler aussi avec toutes les plateformes d'édition électronique qui existent, de Open Edition à des dispositifs universitaires qui sont assez proches des chercheurs maintenant, qui permettent de faire des séminaires en ligne, des publications, des colloques en ligne, des choses comme ça. Donc on s'inscrit dans un écosystème. Alors, on s'y inscrit en fait à double titre. On est au cœur en fait d'une articulation qui va d'une articulation régionale, et on est très ancré, je vais vous le montrer, par exemple, dans les maisons des sciences de l'homme, et on travaille activement avec le réseau national des maisons des sciences de l'homme. On était hier à Aix-en-Provence pour participer aux réunions du bureau du réseau national. Donc on joue une carte d'articulation entre les maisons des sciences de l'homme qui sont proches des programmes de recherche en région, mais aussi on articule ça avec des dispositifs européens et internationaux. Alors évidemment, des infrastructures de réseau de type Daria, Clarine, qui sont au niveau européen, Opéra, et même au-delà aujourd'hui, parce qu'on commence à travailler beaucoup dans le cadre de RDA, je le disais à l'instant, avec d'autres pays, et en particulier le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Le CONICET, on a fait une mission au CONICET en Argentine il y a quelques mois, où ils sont en train de commencer à utiliser quelques-uns de nos services. Donc, pour résumer, Humanum, c'est à la fois un dispositif technologique, avec des serveurs, avec des moyens, avec des services numériques, mais c'est aussi une organisation humaine, quelque part, qui va au-delà de l'équipe d'Humanum. Donc, je vais en dire un petit peu pour vous montrer comment elle est structurée et comment, en fait, vous pouvez vous positionner dans vos différents laboratoires par rapport à cette infrastructure humaine. Donc, ce qui est au cœur d'Humanum, c'est le programme de recherche dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. On travaille pour l'ensemble des sciences humaines et sociales, des lettres et sciences humaines et sociales. Donc, on va accueillir des programmes de recherche à Humanum qui vont être en histoire, en archéologie, en sociologie, en ethno, en anthropologie, en médecine maintenant, etc. Donc, on a une très grande diversité dans cette notion de projet de recherche, de programme de recherche. Et puis, on va mettre ça dans un petit cocon. Et ce petit cocon va être composé d'outils, de services, mais aussi de consortiums humains, hein, pour pouvoir faire du réseautage, comme diraient les Québécois, pour pouvoir réseauter. Et puis, on va faire résonner ça avec des dispositifs internationaux. Et on le fait de plus en plus aujourd'hui. C'est un peu la nouveauté. Humanum est en train de monter en puissance sur les aspects internationaux pour pouvoir diffuser et mettre ça en relation avec d'autres infrastructures à l'international. Alors, le premier des dispositifs, c'est notre premier cercle, c'est notre réseau de consortium. Il y en a 8 qui fonctionnent aujourd'hui. On est un peu en train de travailler ce concept de consortium aujourd'hui. C'est un peu les consortiums, c'est des choses qui ont un peu évolué ces dernières années, qui sont en train de forger des outils, par exemple, qui sont en train de prendre des outils dans des communautés scientifiques et qui sont en train de les génériciser, par exemple, pour les rendre accessibles à plein d'autres communautés. Donc, l'objet consortium se transforme un peu là depuis 2 ou 3 ans. Où d'abord ils travaillent beaucoup plus en réseau entre eux, ils sont de plus en plus, c'est des dispositifs en fait qui font donc de la création quasiment de services avec nous, c'est-à-dire qu'on crée des co on co-crée des services à Humanum avec l'aide des consortiums, ils font de plus en plus d'opérations de formation, de guides de bonnes pratiques, etc. Il représente d'ailleurs une part assez importante, hein, et de plus en plus importante du budget d'Humanum. C'est à peu près la moitié du budget d'Humanum qui irrigue les consortiums et les laboratoires et équipes d'accueil qui y participent. Et donc tout ça, ça fait un premier réseau autour des services d'Humanum qui est assez déterminant, qu'on réunit tous les 2 ans, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle les rencontres Humanum. Elles ont eu lieu l'année dernière. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les prochaines éditions des rencontres Humanum auront lieu en juin 2018. On est en train de commencer à travailler cette question-là, avec les consortiums d'ailleurs. Les consortiums, par exemple, sont de plus en plus aujourd'hui, ils participent avec Humanum à des opérations internationales. Par exemple, au congrès DH 2018 qui se tient à Mexico, il y a un panel qu'on a proposé, une session du colloque qui sera composée qui permettra de faire un dialogue entre quatre de nos consortiums et des dispositifs américains et mexicains qui rejoindront notre panel. Donc on les embarque, en fait, les consortiums, de plus en plus dans l'aventure internationale du Manu. Alors ils sont de plus en plus ancrés dans les maisons des sciences de l'homme aussi. Les huit consortiums sont ancrés dans au moins deux maisons des sciences de l'homme, ce qui fait que du coup, vous voyez qu'on a une double structuration. Les consortiums, c'est plutôt autour des objets du numérique, autour des disciplines. Donc on a une structuration disciplinaire. Et on a aussi une structuration géographique. Et comme on marie les deux au travers du réseau des maisons des sciences de l'homme, en fait, vous commencez à avoir en région des points d'accroche Humanum. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On avait vendredi dernier, là, le 1er décembre, la première réunion de notre début de réseau des correspondants Humanum. Et on construit des points de présence Humanum dans les maisons des sciences de l'homme. Il y en a déjà 6 qui fonctionnent. Et là, la capture d'écran de la maison des sciences de l'homme de Nantes, Ange Grépin, dans lequel vous avez une plateforme qui s'appelle Humanum Loire et qui est en fait le relais local d'Humanum avec Amélie Renard qui est capable localement de faire des formations à nos différents services, etc. Et qui prochainement, je vous montrerai après, va être capable pour les chercheurs nantais, j'ai envie de dire, d'ouvrir des comptes dans nos différents services, de faire des présentations, d'aider les chercheurs à rentrer leurs données, etc. Donc ça, c'est le côté infrastructure humaine, j'ai envie de dire, de réseau que constitue Humanum. Et derrière, évidemment, il y a une infrastructure service de machines qui fonctionne et qui est pilotée avec l'aide d'un comité de pilotage qui prend les décisions et d'un conseil scientifique, qui est très important pour nous parce qu'en fait, il vient valider en fait les directions que prend la TGIR. Donc on est sur deux sites aujourd'hui, Paris et Villeurbanne, où on s'est installé depuis quelques années, donc vous le savez, au centre de calcul de l'INDP3 du CNRS. Et aujourd'hui, nous avons 3 personnes sur place au centre de calcul. On a 2 bureaux maintenant et 2 nouvelles personnes vont rejoindre l'équipe sur la plaque lyonnaise dans quelques mois. On a aussi un point d'accroche à Montpellier, au CINES. On a Lorraine Bachard qui travaille avec nous et Marion Massol aussi pour tous les aspects de pérennisation et d'archivage des données. Donc notre budget en budget consolidé, c'est-à-dire avec les salaires, c'est 2,8 millions d'euros. Et on est une quinzaine de personnes qui marient ingénieurs, chercheurs au sein de la TGIR. Juste pour info, vous le savez peut-être parce que je le dis assez souvent, 2,8 millions d'euros par an, ça représente 0,8% du budget des TGIR en France. Donc vous voyez, c'est tout petit par rapport au budget des TGIR. Et donc ça fait écho à la recommandation du conseil scientifique du CNRS qui a été pris il y a quelques jours, dans lequel j'ai un peu poussé, comme on dit. Alors, donc, on s'inscrit dans un dispositif donc de ce qu'on appelle d'écosystèmes autour de la donnée et des documents, et on s'inscrit dans un mouvement dont vous avez peut-être commencé à entendre parler, qui s'appelle le mouvement FAIR ou le modèle FAIR. Donc c'est d'inscrire les données de la recherche dans un dispositif permettant de les trouver, de les rendre accessibles, de les rendre interopérables, en tout cas en SHS au niveau des métadonnées, c'est indispensable, et donc potentiellement réutilisable. Derrière cette logique et ce modèle FAIR, dit FAIR, alors j'aime bien parce qu'en français, si on traduit, ça fait terre. J'adore. Je trouve ça très bien. On va le jouer un peu, je pense, dans les mois qui viennent. Donc derrière ce modèle FAIR, il y a quelque chose qui est pour les SHS, à mon avis, central, très important, et sur lequel on est déjà en train de travailler à Humanum. C'est pas tellement les aspects de réutilisables, etc. C'est les aspects de à la fois d'interopérabilité et de signalement. Ça, c'est très important parce qu'on part du principe à Humanum qu'une donnée qui est enfermée dans une base de données, en fait, ou de la connaissance qui est enfermée dans une base de données, pour être plus précis. En fait, et que si cette base de données, elle n'est pas interopérable pour des machines, si elle n'est montrable qu'à des humains, ça en limite en fait l'accès. Et donc, on a vraiment besoin de faire en SHS une véritable révolution pour concevoir autour des données, autour des dispositifs de la donnée, des doubles modalités d'accès. C'est-à-dire des accès pour des humains, c'est bien de faire une base de données FileMaker et de la mettre à Humanum avec un joli formulaire de recherche pour que des collègues l'interrogent, etc. C'est mieux en fait de faire ça, plus de la rendre lisible pour des machines et de les inscrire dans des réseaux disciplinaires. Et c'est ça qu'on essaye de pousser avec nos services. Alors les services Humanum, peut-être qu'ils sont dans la plaquette là, que vous avez sans doute eue à l'entrée, ils sont organisés en 6 grands secteurs d'activité qui couvrent à peu près ce cycle de vie de la donnée. Donc on va du stockage au signalement de la donnée dont je parlais à l'instant. Alors je vais balayer très vite, pas tellement les services en tant que tels, vous pouvez aller sur notre site web pour les décrire. Je vais quand même faire un petit rappel, mais surtout je vais montrer un peu les nouveautés et les choses qu'on est en train de faire en ce moment, parce que c'est plus intéressant. Alors, je vais balayer d'abord le stockage, le traitement et la diffusion. Je vais aller très très vite. Alors, sur le stockage, on a 2 dispositifs qui sont en train de monter en puissance. La Humanum Box et la plateforme ShareDoc. Alors, la Humanum Box, c'est un service déconcentré d'Humanum dans les maisons des sciences de l'homme pour le moment. Et le stockage ShareDoc, c'est un stockage outillé pour les SHS qui s'adresse plutôt aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs à titre individuel. Alors, la Humanum Box, globalement, je vais aller très vite. On est en train de déployer au sein des maisons des sciences de l'homme ce qu'on pourrait appeler des armoires de données qui permettent localement de déposer des données qui sont plutôt des données volumineuses et sur lesquelles qu'on a envie un peu de stocker pour le long terme. D'accord ? Alors ça, c'est très important parce qu'on a de plus en plus de données en SHS et on a des volumes de données qui commencent à poser des vraies questions. On a des maisons des sciences de l'homme ou des programmes de recherche qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, nous, on est en train de produire 50 téraoctets par an de données. Et 50 téraoctets de données, vous ne pouvez pas les mettre sur des disques durs dans vos bureaux, etc. C'est plus possible. Donc il faut passer à l'échelle. Et une des façons de passer à l'échelle, c'est qu'on est en train donc de créer ce réseau de Humanum Box partout en France, on est en train d'en mettre, qui sont des points déconcentrés où les chercheurs peuvent faire du stockage lourd, en fait, tout en synchronisant les données sur le territoire national. D'accord ? Donc c'est cette notion de ce qu'on appelle de tête de NAS dans les maisons des sciences de l'homme. On est en train de déployer des serveurs dans les maisons des sciences de l'homme et dans les universités, qui sont des Humanum Box et qui permettent en fait de stocker localement de la donnée et à la limite de pouvoir l'échanger avec une autre maison des sciences de l'homme. C'est-à-dire que s'il y a 2 maisons des sciences de l'homme qui ont une Humanum Box, par exemple, à Lille et à Toulouse, alors je prends l'exemple parce qu'on est en plein dedans en ce moment, eh bien on a des chercheurs de Lille qui vont stocker à Lille leurs données, et les collègues de Toulouse pourront, après que les collègues de Lille auront donné accès, vont pouvoir récupérer sur leur Humanum Box des gros volumes de données, 10, 15, 20, 30 téraoctets de données. D'accord ? Donc on est en train de créer non pas un service centralisé de données, mais on est en train de faire un service déconcentré de stockage de données. Il y a sur l'URL là, que vous avez, il y a toute la description. Alors il y a déjà plein de Humanum Box qui ont fleuri en un an. C'est un projet qui a démarré il y a un an à peu près à Humanum. On n'a pas trop fait de pub autour parce qu'on a été très vite dépassé par la demande en fait. Donc là vous avez la liste des Humanum Box qu'on a installés déjà, qui sont en fonctionnement à Toulouse, par exemple, MSH en Bretagne aussi, à Nantes. Elle est en train d'être mise en place. À l'ISH et à la MOM, il y en a déjà 2 qui fonctionnent, à Lyon. Là, on est en train de commencer à travailler avec la MSH Paris Nord et le pôle Média en particulier. On pense au campus Condorcet, évidemment, derrière. Et puis, il y en aura une à la BDIC aussi, sur le campus de Nanterre, qui, c'est une Humanum Box, pas MSH, mais... comme ils ont beaucoup de données et qu'à la BDIC, ils n'avaient pas de sauvegarde de leurs données, on a dit, tiens, on va en mettre une. Voilà. Alors, petite parenthèse, la Humanum Box, ce n'est pas un dispositif qui est totalement gratuit comme les autres services d'Humanum. C'est des dispositifs sur lesquels on fait des cofinancements avec la plupart les maisons des sciences de l'homme qui sont là. Parce que c'est quand même on travaille sur des gros volumes de données. Donc, en termes financiers, une Humanum Box, ça coûte autour de 80 000 euros. Hein. Donc, ce n'est pas neutre en termes de déploiement. Voilà. Mais on innove aussi en matière de modèle économique. On aime bien ça. Alors, bon, l'idée de la Human Inbox, hein, si je vais au bout du principe, dans quelques mois, dans quelques années, vous aurez sur les maisons des sciences de l'homme pourront proposer à leurs chercheurs des outils locaux. Hein, là, j'ai mis une capture d'écran de mon bureau Mac, où j'ai un petit logiciel qui s'appelle C-File, en fait, qui permet de faire de la synchro de données. Hein, il est utilisé dans plein d'universités, ce logiciel-là. Mais derrière, il va alimenter localement la Human Inbox, ce qui va permettre de travailler avec des très gros volumes de données. Alors, ça, c'est la Human Inbox. Un autre service, c'est le ShareDoc. Donc, ShareDoc, c'est un stockage outillé pour les SHS. C'est une sorte de cloud typé SHS. C'est une Dropbox, hein, si je simplifie à l'extrême. Mais on le met sur nos serveurs à nous. Hein, c'est hébergé par Humanum sur des serveurs en France. Ce qui, pour certains, dans certains cas de confidentialité de données, c'est bien, c'est mieux. Alors bon, ça ressemble à ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui l'utilisent au quotidien. C'est une interface web dans laquelle je vais pouvoir déposer, structurer, partager des documents, des données. On commence à y mettre de plus en plus d'outils à l'intérieur de ShareDoc, en particulier des outils d'édition. Hein. Vous pouvez éditer des articles en Word directement à l'intérieur de ShareDoc. Vous pouvez faire du partage de l'édition multiple à l'intérieur, un petit peu comme vous pouvez faire avec Google, sans l'inconvénient de le mettre chez Google, quoi. Et puis, donc, il y a plein d'outils. Hein. Là, c'est la partie édition. Il y a des outils de transcodage audio-vidéo à l'intérieur de ShareDoc. Vous n'avez qu'à glisser vos fichiers vidéo sur d'autres formats pour que les machines prennent le relais. Et puis, une fois que le transcodage est fait, la transformation de format est faite, ça vous envoie un petit mail sur votre boîte aux lettres en disant « ça y est, c'est fini le calcul, tu peux venir chercher tes fichiers vidéo ou tes fichiers audio » pour les récupérer. Alors ça, c'est très utilisé. Et globalement, il y a plein d'outils qu'on est en train de brancher dans ShareDoc. Donc des outils de conversion audio, vidéo, de fichiers, des outils de reconnaissance de caractère. On a branché Abify Rider directement dans ShareDoc, ce qui permet de balancer des kilomètres de documents à auxériser, hein, à faire de la reconnaissance de caractère, avec plein de dictionnaires, alors des dictionnaires un peu, hein, qui intéressent les SHS. Faire de l'ossérisation en grec ancien, par exemple, ou en latin, ça peut être utile dans certains cas. J'ai une collègue d'une AMSH de Grenoble, je me souviens, qui est en train de faire ça. Elle avait besoin d'un OCR pour faire du latin. Donc, bon, c'est pas évident à avoir dans son université. Elle s'était battue avec sa DSI universitaire pour acheter un logiciel de reconnaissance latine. Voilà, elle l'a trouvé à Humanum et elle met des kilomètres de fichiers pour faire de l'ossérisation en latin avec. Voilà. Alors, bon, donc il y a plein d'outils. Outre ShareDoc, à Humanum, il y a énormément d'outils à disposition. Et ces outils à disposition de traitement de la donnée, là, je passe un peu à la partie traitement. En fait, ils sont sur notre site web. Hein, la liste est sur notre site web. Il faut qu'on l'améliore un peu, notre site web. Il est un peu ancien maintenant, mais il y a plein d'outils disponibles, des outils de traitement de la donnée. Ça va du SIG à des outils haut de gamme pour faire du traitement stat comme R et des choes comme ça. Donc RStudio Pro, Shiny, des outils de 3D, 2D comme Photoscan ou MentalRay qui sont à disposition. Là, je vais vite, mais globalement, ces outils sont soit on les met dans ShareDoc et ils sont accessibles à distance, soit on vous les met à disposition de façon diverse et variée. Là, il suffit de nous écrire pour qu'on mette en place les comptes pour vous. Alors là, je vous montre, là, c'est des collègues, hein, qui sont emparés de Shiny, de R Shiny, hein, donc ils mettent leurs données à Humanum, hein, ils vont les stocker à Humanum dans ShareDoc, puis après, ils vont traiter la donnée au-dessus avec des outils chez nous, quoi. Voilà. Alors ça, c'est Shiny. Ça, c'est Voyant Tools. C'est un outil de l'université de McGill qu'on a récupéré, qui permet de faire la visualisation de texte, en fait, qui est disponible chez nous. Et vous pouvez charger vos données, hein, derrière. Alors, tous les outils que je vous montre là, il y en a un des derniers écrans là-dessus. On peut héberger des sites web, on peut mettre des machines virtuelles. Il y a des collègues qui ont besoin d'une infrastructure Docker pour déployer des applications à distance. Tout ça, c'est en standard maintenant à Humanum. Hein. C'est gratuit. Vous avez juste à envoyer un mail, en fait, pour dire « ben voilà, je voulais déployer du Docker, je veux accès à tel logiciel, etc. » Donc là, nous, maintenant, on est passé en quasi 3.8 là-dessus. Donc il suffit d'envoyer des mails et de demander. Et puis on met à disposition. Alors ça, c'est ces outils-là, tout ce que je viens de vous montrer là, en fait, on réfléchit en ce moment à les mettre dans les Humanum Box. C'est-à-dire que la Humanum Box, je vous ai dit, ça sert à faire du stockage, mais peut-être que demain, dans la Humanum Box, localement, bah, vous aurez aussi les outils de traitement plus près de vos données, plus près des gros volumes de données que vous avez à manipuler pour démultiplier un peu le dispositif. Ça, ce n'est pas encore fait, mais on y réfléchit très fort en ce moment. Alors, une fois qu'on a bien travaillé ces données, qu'on les a bien stockées soit dans les Humanum Box, soit dans ShareDoc, on a besoin souvent de les exposer, de les rendre accessibles. Et donc là, ça fait l'objet à Humanum de trois services, un service d'exposition, un service de signalement et un service d'archivage, qui sont plus typés SHS, là, pour le coup, dont en particulier la plateforme Nacala, qui est un outil qui va permettre la diffusion et l'exposition de documents et de fichiers, où on va pouvoir gérer ça sous forme de collection, on va pouvoir rajouter des métadonnées structurées, c'est-à-dire décrire les données, on va pouvoir avoir des outils pour permettre la citabilité de la donnée avec des identifiants handle, et puis on va avoir tout un tas de connecteurs à disposition pour favoriser l'interopérabilité. Ça va de la mise en place d'API en standard à de l'OIPMH, à de la conversion RDF, etc. Donc, vous voyez là, on est passé du stockage vrac, j'organise ma recherche, à quelque chose qui se rapproche un peu du modèle FAIR que je disais en introduction, où là, on va vous demander de structurer l'information, de la rendre accessible, de la rendre citable, de la rendre interopérable. Alors, Nacala, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez déposer, documenter vos données, et elle s'inscrit dans plusieurs dispositifs internationaux aujourd'hui, en particulier des plateformes qui référencent plateformes de données, en fait. En particulier celle-là, qui s'appelle RI3Data, sur lequel on est, nous, très actifs. Hein. Vous y retrouverez, évidemment, le signalement de Nacala. Et donc, RI3Data, c'est une plateforme qui va référencer des plateformes à la disposition des enseignants-chercheurs pour qu'ils y déposent leurs données, suivant certains critères de FAIR, etc. À ce titre-là, il y a une initiative qui est portée en ce moment, alors qui n'est pas encore tout à fait stabilisée, mais on va y travailler dans les mois qui viennent, qui a été réalisée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Humanities at Scale, qui est un projet porté par DARIA, par l'infrastructure européenne DARIA, et qui est un service de recommandation de services pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors là, l'idée, c'est simple. C'est, en fait, on a construit un dispositif web qui va, en fait, tenir compte de plein d'entrepôts qui sont disponibles. Et grâce au petit formulaire que vous avez là, alors pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, mais il faut qu'on le fasse dans toutes les langues de l'Union européenne pour que ça soit labellisé par la Commission européenne. Ça va être fait dans les mois qui viennent. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire de quel pays vous êtes. Alors, je suis chercheur en France, par exemple, ou je suis chercheur en Belgique ou en Irlande. Dans quelle discipline vous êtes. Alors, je suis historien, je suis ethnologue, sociologue, etc. Et suivant ces deux paramètres-là, en fait, on va sélectionner pour vous des entrepôts qui correspondent, en fait, à différents besoins que vous avez, que vous pourriez avoir soit dans votre discipline, soit en conformité avec votre pays en matière d'ouverture des données de la recherche. D'accord ? Et on va vous faire des propositions. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, si vous êtes en France et que vous êtes un historien, bah, vous pouvez aller dans Nacala, par exemple. D'accord ? Si vous êtes belge et que vous êtes géographe, ah, bah, vous pouvez aller, vous avez plutôt intérêt à déposer vos données à la norme INSPIRE dans l'université de Bruxelles, ou etc. Ou bien, si vous êtes italien, ah ben non, tiens, il y a un entrepôt au Portugal, ça peut être intéressant de les mettre aussi au Portugal parce qu'il a un poids dans votre discipline, etc. Hein. Donc, vous voyez, c'est une sorte de switcher, j'ai envie de dire, en mauvais franglais, qui permet, suivant le profil que l'on a, d'avoir des recommandations sur où déposer ces données. Donc, ça fera peut-être écho à la discussion de tout ça. Évidemment, Nacala s'inscrit aussi dans les plateformes nationales de signalement, comme Catopilor. Je passe vite, ça sera présenté. Donc Nacala, ça ressemble à ça. Il y a une petite interface web. Ça s'appuie sur le modèle de données Dublin Core Terms. On y a embarqué les outils de validation pour la pérennisation des données, en particulier l'outil facile du CINES. Vous n'avez qu'à cocher une petite case et ça va vous dire si le format de fichier que vous avez déposé, il est archivable ou pas aux yeux du CINES. Donc dedans, il y a plein de services évidemment qui sont disponibles. À chaque fois, tout compte ouvert dans Nacala se voit aussi attribué un entrepôt IPMH. On fait de la conversion RDF. Il y a une API maintenant. Et c'est couplé avec la Fédération d'entités enseignement-recherche, ce qui nous permet d'ouvrir des comptes avec votre identifiant local de votre université ou de votre labo ou de votre organisme. Alors, donc Nacala, il y a une partie pour les humains. Il y a plein d'outils qui utilisent Nacala, qui se greffent à Nacala maintenant. Plateforme Nuxeo, Alfresco, etc. Il y a plein d'applications web maison qui fonctionnent. Il y a des sites web qui commencent à communiquer nativement avec Nacala. Donc ça, c'est des accès pour les humains. Puis il y a des accès pour des machines avec l'API, etc. Alors, quelques exemples. Ça, c'est le projet Karnak en Égypte. Donc eux, ils ont un système d'information qui était hébergé par Humanum, en fait. Hein. Donc ils ont construit avec deux informaticiens et un prestataire. Mais toutes les données, ils les ont mises dans Nacala. Ils font des rapprochements, d'ailleurs, comme ça, de bas-reliefs égyptiens directement avec des données qu'ils ont dans Nacala. Du coup, ils ont un double avantage. C'est qu'ils ont construit une application, leur système d'information s'appuie sur deux dispositifs. Ils mettent la connaissance avec les données dans Nacala. Ça, c'est pérenne. Ils ont des URIs, ils ont des handles pour citer les bas-reliefs, etc. Et puis, ils ont leur appli métier, propre aux égyptologues, de l'autre côté, en fait. Et les deux communiquent. Le jour où leur appli métier est trop vieille, ils ont envie d'en changer, etc., ils la jettent, ils garderont leurs données dans Nacala. Ils n'auront pas à réimporter leurs données, à redocumentariser leurs données. Elles seront toujours dans un dispositif simple. Alors, ça, c'est un peu pour les gens qui ont des informaticiens, ces gros labos, qui ont un peu de la ressource humaine ou qui ont des bons prestats ou qui travaillent depuis longtemps avec des prestats. Il y a des gens qui démarrent, ils sont tout seuls, ils n'ont personne, ils n'ont pas d'informaticiens, ils n'ont pas de documentalistes comme vous dans leur labo. Ils démarrent, ils n'ont rien. Et pour ça, on a inventé Nacalona. Alors Nacalona, c'est quoi? C'est un petit service qui est opéré par Humanum, qui est complètement géré par l'équipe d'Humanum, et qui marie le système Omeka, qui permet de fabriquer des bibliothèques numériques, et Nacala. On a fait un pont entre les deux. Ça ressemble à ça, hein, graphiquement, quand vous êtes dans l'interface de Omeka, de gestion de vos données dans Omeka. Et donc, ça permet de communiquer nativement avec Nacala. Donc, en fait, globalement, vous avez la mise à disposition dans Nacalona de deux outils. Un Omeka avec des modules, des templates, etc., qui sont gérés par Humanum, hébergés par Humanum, mis en œuvre et mis à jour par Humanum. Puis de l'autre côté, vous avez un compte Nacala et vous pouvez faire communiquer les deux. Donc, ça vous permet de créer des bibliothèques numériques, des corpus en ligne très rapidement. Vous mettez toutes vos données dans votre Omeka. Vous les documentez dans votre Omeka, vous créez vos collections, vos expositions virtuelles, etc. Et puis, pour faire de la préservation, pouf, vous envoyez dans Nacala toutes les données structurées. Elles sont bien au chaud, elles seront mises bien au chaud dans Nacala. Et le jour où vous serez passé à un autre programme de recherche, hein, souvenez-vous de mon petit schéma avec les ANR, vous êtes dans un ERC dans 5 ans, vous êtes dans un autre projet ANR dans 3 ans, vous avez changé de labo 5 fois en 10 ans... vous enlevez votre Omeka, en fait, vous êtes passé à autre chose, vous avez un autre CMS, vous avez toujours vos données au chaud dans Nacala. Alors, donc, du coup, vous voyez, Nacalona, c'est une petite brique, un petit service d'Humanum qui permet à des gens qui n'ont pas d'équipe, ou pas beaucoup d'équipe, j'ai envie de dire, de démarrer très facilement avec une interface graphique pour fabriquer des petites bibliothèques numériques. Voilà. Ça, je m'étais amusé à faire ça avec mon compte test. Puis, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent Nacalona, donc des ANR, des instituts français à l'étranger, la LIFRA de Nairobi, beaucoup, etc. Hein, on est en train de publier la liste des sites. Et tout ça, en fait, une fois qu'on a bien documenté ces données dans Nacala ou qu'on les a éditorialisées avec Nacalona, eh ben, on n'a plus qu'à les pousser dans la plateforme Isidore, là, pour les signaler et pour les faire participer, j'ai envie de dire, au LinkedIn Open Data, c'est-à-dire de pouvoir les faire dialoguer dans le grand concert des données mondiales, comme on pourrait dire. Donc Isidore, vous le connaissez, c'est un environnement unifié d'accès aux données. Aujourd'hui, c'est 5 millions de données en sciences humaines et sociales, principalement en open access. Un peu plus de 4000, même 5000 sources de gisements de données qui sont collectées tous les mois. Isidore passe sur tous les sites une fois par mois. Donc on collecte, on enrichit, on classe, on catégorise et on rend accessible. Il y a, donc, je l'ai dit, plus de 5000 sources de données qui sont présentes. Et aujourd'hui, c'est un dispositif international, Isidore, puisqu'on a des opérateurs comme le CSIC en Espagne, l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université libre de Bruxelles, l'Institute for Social Research de l'Université du Michigan, qui est on va dire le projet d'eau américain, j'ai presque envie de dire, qui est un gros, gros, gros contributeur avec, par exemple, un truc que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps, c'est les comptes rendus des enquêtes des élections américaines depuis les années 50. Qui sont disponibles dans la plateforme Isidore. C'est vraiment passionnant. C'est un truc, il faut vraiment aller voir ça. C'est fourni par l'Université du Michigan. Le réseau Redalic au Mexique et Amérique centrale qui contribue. Après, toutes les plateformes d'édition électronique. C'est Isidore, c'est le lieu où vous pouvez, en une requête, interroger Cairn, Open Edition, Percé, OAPEN, Erudit, HAL, SOAS, l'Université of London, etc., en une requête, d'accord ? Voilà. Donc, on enrichit, on classe avec des référentiels scientifiques et des grands référentiels documentaires. Donc, le but, c'est de décloisonner les bases de données, ça vous le savez, c'est de créer de la glue, en fait, scientifique entre les données pour mieux travailler. Et donc, depuis quelques années, on fait ça en trois langues, français, anglais, espagnol. D'accord. Ce qui fait d'Isidore un outil. Vous voyez là, je switch les langues. J'ai un document en français et j'ai une classification et des enrichissements qui varient et qui apparaissent en anglais, en espagnol ou en français. Donc Isidore, c'est un outil de promotion en langue étrangère des publications en français, en fait, tout simplement. Parce qu'un chercheur non francophone, il va avoir des enrichissements, une classification, des métadonnées supplémentaires dans sa langue à lui, il va dire « Tiens, ce document, il a l'air d'être vachement intéressant. Je vais aller le faire. Je lis pas le français, je comprends pas le français. Je vais aller le faire traduire par Google ou par tout autre service de traduction. » Donc là, on a un outil qui valorise la production française en langue française, mais avec des concepts en langue étrangère. Donc vous voyez que derrière, notre philosophie, c'est de dire « Ça sert à rien de s'angoisser et de se prendre la tête avec des outils de traduction » qui sont souvent mauvais en plus, pour faire de la traduction automatique de texte. C'est déjà, on fait ça, après on rediscute, d'accord ? Et ça permet de commencer à positionner tout en jouant la carte de la francophonie, évidemment. Et donc, je vais vite parce que je suis peut-être en retard, évidemment. Donc il y a des accès pour les humains, des accès pour les machines là aussi. Donc c'est un moteur de recherche à facettes, ça je passe vite. Il y a une version mobile, une application mobile qui n'est pas tout à fait la même que le site web d'ailleurs, qui permet de profiter du LinkedIn Open Data, puisqu'on a agrégé dedans, en plus des données Isidore, tout ce qui vient de data BNF, etc. Donc ça permet de faire des fiches biographiques comme ça sur les auteurs. Je vous le dirai après, mais on est en train de refondre cette application là en ce moment. On a aussi développé Isidore sans Isidore, c'est-à-dire des Isidore qui vient, par exemple, dans hypothèse.org, faire de la suggestion de lecture en analysant le contenu d'un billet, par exemple. Donc là, la personne qui écrit le billet, elle n'a qu'à taguer avec sa souris, elle tague quelques mots-clés dans son billet, et ensuite Isidore va analyser ça et faire des propositions de lecture pour aller plus loin sur le contenu. Donc ça, c'est un module que WordPress, que vous pouvez mettre sur n'importe quel site WordPress, mais vous l'avez en standard dans hypothèse.org. Donc si vous ouvrez un carnet de recherche sur hypothèse, vous avez accès à ce module-là, comme vous avez accès au module HAL, etc. C'est en standard dans hypothèse. Alors pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin qu'Isidore Suggestion, on a créé Imoco. Imoco, donc ça date, ce que je vous montre là, ça date de 2-3 ans déjà, mais c'est des outils qu'on continue à développer et à maintenir. Imoco, c'est Isidore Motor Constructor, donc en trois clics, vous fabriquez votre propre moteur de recherche sur une discipline, sur une revue que vous avez mis dans revue.org, par exemple. Vous animez une revue, je ne sais pas, moi. Voilà. Vous avez envie de vous faire un moteur de recherche juste sur les documents de votre revue. Vous pouvez le faire avec Imoco. Vous êtes, je ne sais pas, vous animez un site web dans votre bibliothèque ou dans votre centre de doc ou dans votre labo sur une thématique, je ne sais pas. L'autre jour, il y a une collègue qui m'a dit « Tiens, j'anime un site web sur un portail documentaire sur le genre en Afrique. » Je me souviens de ce nom. Sur les pays, les anciens pays des colonies. C'était très intéressant. Et elle dit « Ah ben tiens, je vais mettre quelques mots-clés dans Imoco, donc genre, zone géographique, l'Afrique, etc. » Elle récupère des données, elle se fait un moteur de recherche, on va dire un peu à la carte, sur une thématique qui va lui servir pour son site web, quoi. Voilà, par exemple, ouais, ça c'était une de nos collègues, là, Humanum, là, Adeline Joffre. Elle a, avant de venir d'être recrutée à Humanum, elle a eu une autre vie, comme on dit, et elle anime le GEVEN, là, le réseau en sciences politiques sur le Venezuela, par exemple. Hein, donc, il s'intéresse à l'actualité du Venezuela, qui est toujours très caliente, j'ai envie de dire, surtout en ce moment. Et donc, le GEVEN, le réseau, hein, ils utilisent Imoco pour en faire un moteur de recherche thématique sur le Venezuela. Ils ont que des documents qui viennent d'Isidore sur le Venezuela et en sciences politiques, par exemple. Hein, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça donne ça. Ça fait un surcouche de moteur de recherche. Voilà, je vais super vite. On développe en ce moment, alors ce n'est pas encore visible, mais ça sera visible à partir de février-mars, si tout va bien, une Isidore tactile. Donc c'est Isidore sous forme de table tactile pour pouvoir travailler à plusieurs sur les ressources numériques. Alors ça, c'est à destination des bibliothèques universitaires. Il y en a une à Paris, à la FMSH, qui est un peu notre laboratoire à nous, qui est en train d'être installé. Et la première vraie table Isidore tactile sera installée à la bibliothèque universitaire d'Orléans, bibliothèque de lettres et sciences humaines. Donc Isidore tactile, c'est un projet qu'on mène depuis un an avec deux entreprises et deux autres labos, où en fait on a envie de créer une... C'est un lieu en fait qu'on crée dans les bibliothèques qui permet aux documentalistes et aux bibliothécaires d'avoir un instrument, Isidore, la table Isidore, sur lequel elles peuvent sensibiliser à la recherche documentaire pour les étudiants, par exemple. Hein, le but, c'est de faire venir les étudiants à la BU, et plutôt que de les faire travailler les uns derrière les autres sur leur portable, où en fait, ils viennent à la BU, pas pour la BU, ils viennent vers la BU parce qu'il fait bon, il y a du Wi-Fi. Donc, comme ils viennent à la BU pour ça, on leur dit, on va vous faire travailler sur les mêmes données que vous avez sur votre ordinateur, mais en travail collectif, c'est-à-dire à plusieurs. Et donc la table tactile, elle est là pour ça. Donc elle permet à un bibliothécaire, à un documentaliste, d'être la personne ressource, l'animateur, qui va proposer sur la table tactile des recherches bibliographiques, de la veille, des choses comme ça. Et elle va aussi animer le groupe de travail d'étudiants, jusqu'à 6 personnes peuvent travailler autour de la table, qui vont pouvoir faire des recherches, commenter les ressources, faire des tas... c'est des petites les ressources Isidore, au lieu de les avoir sous forme de fiches, c'est des petits post-it en fait, hein, sur la table tactile. Donc vous passez les post-it, vous les annotez, vous faites des tas, des regroupements, et puis comme c'est tactile, vous faites un tas sur un thème par exemple, vous l'entourez comme ça avec le doigt, hop, ça vous fait une collection, et ça vous le mettez dans Zotero. Et comme ça, quand vous connectez, quand les étudiants se connectent pour faire un exposé, ils retrouvent dans Zotero le truc qu'ils ont discuté à plusieurs avec les copains ou le groupe de travail sur la table tactile. Ouais, vous voyez, donc ça, Isidore tactile, je vous invite, enfin, surtout les documentalistes qui sont intéressés, il y en aura une à Paris, une à Orléans. J'espère qu'on va en mettre une dans le sud de la France bientôt. Je suis en discussion avec Mathieu Sabi à Nice pour qu'il y en ait une au SCD de l'Université de Nice. Alors c'est un peu compliqué à faire fonctionner encore. La table tactile, c'est un peu un proto, hein, comme on dit chez nous. C'est pas tout à fait clé en main. Mais c'est un dispositif sur lequel on investit un peu et qui préfigure, et je termine par là, qui préfigure un peu une révolution dans le monde Humanum, dans l'écosystème Humanum qu'on n'a pas mis en place encore, mais on y travaille beaucoup en ce moment. On a deux personnes qu'on a recrutées à Humanum pour ça. On va créer à partir de janvier-février 2018. Pour l'instant, ça va avoir lieu à Paris, à la FMSH, ce qu'on appelle le Humanum Bar. Et qui aura une fois par mois au démarrage, puis ça dépend du succès, mais on verra si on passe à deux fois par mois. Une fois par mois, il y aura une après-midi consacrée aux services du Manum qui auront lieu à date fixe, où les programmes de recherche pourront venir, en fait, à la fois rencontrer l'équipe du Manum, mais aussi avoir des conseils, etc. Donc on va faire des thèmes là-dessus. Évidemment, le Humanum Bar sera autour de la table tactile et on y montrera un peu les nouveautés. Donc ça, il faut bien suivre l'actualité du Humanum sur notre carnet de recherche, sur notre site web, pour avoir des informations sur ce Humanum Bar qu'on va ouvrir à Paris. Voilà, et je termine. Les services du Humanum sont entièrement gratuits pour les communautés, mais vous l'avez compris, ils coûtent un peu d'argent. 2,8 millions par an. Ils coûtent 0,8% du budget des TGIA en France. Ils sont ouverts à tous, et j'insiste sur le « à tous » et « à toutes ». J'insiste parce qu'il y a beaucoup de collègues qui me disent souvent « Ah oui, mais moi, je suis pas dans une UMR, je suis pas au CNRS, je suis dans une équipe d'accueil universitaire. » Voilà. Les équipes d'accueil y ont accès comme les autres. Les post-docs y ont accès, les doctorants y ont accès. On ne fait pas de différence entre des chercheurs qui sont au CNRS, des chercheurs qui ne sont pas au CNRS. Voilà. Je dis ça d'autant plus qu'on est en train d'ouvrir les services, ce que je viens de vous montrer, on est en train de l'ouvrir à l'international, et qu'en fait, on a aujourd'hui des chercheurs canadiens, espagnols, italiens, qui utilisent Nicolas, qui utilisent Isidore, etc. Donc, on ne va pas regarder si vous êtes dans une UMR, pas dans une UMR, etc. Et vous retrouverez tous nos sites et tous nos dispositifs. J'insiste sur le fait que pour nous demander tout accès à nos services, c'est cogrid@humanum.fr par mail. Hein. On ne prend aucune autre demande autre que par Cogrid. Hein. Juste parce que Cogrid, aujourd'hui, c'est 60 à 70 demandes par semaine. Donc passez bien par ce mail-là, parce que sinon, on passe à côté des demandes. Il y a un monsieur hier qui nous a appelé en nous disant « Je ne comprends pas, on ne m'a pas répondu ». On dit « Mais vous êtes qui ?» Il est venu physiquement à Humanum, c'est pour ça. « Vous n'avez pas répondu ?» Il dit « Mais vous êtes qui ?» Il dit « Ah, mais un jour, j'ai écrit à contact@humanum.fr ». Il avait fait une longue demande comme ça, mais ce n'est pas le bon endroit. Donc on insiste, nous, maintenant, pour les gens, vous écrivez à Cogrid. C'est le seul endroit où on est sûr de ne pas rater votre demande. Voilà. On fait les questions maintenant, c'est ça ?
Voilà. Je pense que pour ce qui est du réseau ISOR, on va essayer de se cotiser et puis commander une table tactile pour le Père Noël. Je ne sais pas si on l'aura à temps.
Ça coûte un peu cher. Voilà. Enfin, cher. Pour un budget de BU, c'est pas cher. Une table tactile clé en main, la celle d'Orléans, elle a coûté 8000 euros. Tout compris, hein, le coût de l'application qu'on fait développer dedans, modèle économique et tout ça, c'est entre 8 et 10 000 euros. Oui. C'est pas pour un budget de BU, c'est pas énorme.
J'aurais une question notamment sur les communautés donc, qui s'approprient ces outils. J'aurais aimé savoir est-ce que vous avez noté des différentiels entre les pratiques et les usages d'appropriation de ces outils. Une autre question d'affilée, j'en profite, après je vous laisserai la parole, c'est y a-t-il des communautés qui sont totalement absentes de ces outils ? Et ça serait peut-être important aussi d'avoir ce retour-là pour nous qui sommes professionnels de SHS, comment pouvoir mieux appuyer après avec cette connaissance-là ?
Oui, il y a des communautés absentes, effectivement. Globalement, les communautés qui sont bien partie sur nos services et qui participent au consortium, par exemple, ou qui s'agrègent autour des plateformes, des maisons des sciences de l'homme, etc. C'est plutôt des gens qui ont depuis longtemps une culture, non pas du numérique, mais une culture de la donnée ou du document, j'ai envie de dire. Donc les aspects documentaires sont forts. Il y a des communautés, je pense à des communautés autour de la littérature, par exemple, qui sont un peu moins présents au niveau des services du Manum. La sociologie, par exemple, est une discipline qui est normale, parce que la sociologie, par exemple, ça passe par les revues, ça passe par des choses comme ça, donc c'est moins... Mais par exemple, enfin, Là aussi, on a eu des demandes. On commence à avoir des demandes de sociologues qui nous disent « Ah, moi, je voudrais faire... J'ai besoin d'un logiciel pour faire des enquêtes, par exemple, des choses comme ça. » Alors là, on est en train de... On a réfléchi un peu. On est en train de déployer la solution Sphinx. Donc peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, qui permet de faire des questionnaires d'enquête. Enfin, pas que des questionnaires, mais tout le traitement derrière de stats derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de commencer à ouvrir. Là. À Humanum, on a négocié avec l'éditeur de Sphinx l'accès aux données. Et donc oui, il y a des disciplines qui sont... Mais c'est pas très grave, parce que... Je devrais pas le dire, mais on a un peu un principe à Humanum, c'est un peu... On reprend le slogan de McDo, en fait, c'est « Venez comme vous êtes ». Et c'est un peu ça derrière. C'est-à-dire, c'est pas très grave qu'il y ait des communautés qui mettent du temps à s'approprier les services d'Humanum, autant qu'elles le fassent à leur rythme, et que surtout ce qui compte pour nous, c'est qu'elles le fassent sur des aspects scientifiques. C'est-à-dire que ce soit pas... Parce que c'est un vrai danger, on le voit dans certains usages qui sont faits de nos outils, par exemple, ou de nos services. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit maîtrisé sur le plan du processus scientifique. Et une infrastructure comme Humanum, ou toutes les infrastructures dans le monde qui ressemblent à Humanum, je pense à celle de l'UQAM, par exemple, qui a une petite infrastructure qui fait de l'hébergement web, comme nous, des services comme ça, c'est le danger pour nous, c'est de faire de l'infrastructure pour de l'infra. Ça, c'est le danger absolu, c'est ce que je m'échine et que je dis à chaque réunion d'équipe à Humanum, c'est qu'on n'est pas là pour déployer de la box, on n'est pas là pour déployer du soft, on n'est pas là pour déployer du Nacala et des comptes à tout bout de champ. On est là pour apporter, je l'ai enlevé de ma présentation parce que pour évoluer un peu, mais avant j'avais une diapo qui disait les services d'Humanum, c'est au bon endroit, au bon moment, au bon niveau. C'est ça qui compte pour nous, c'est-à-dire d'outiller le processus de recherche. Donc, pour en revenir aux communautés, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment les communautés, quel est le processus de recherche de la communauté ou des communautés, pour mettre les bons services au bon moment, au bon endroit, dans les communautés, qu'il y ait des personnes relais, les documentalistes, les bibliothécaires, qui sont les bonnes personnes relais, parce que nous, on va pas, moi, je ne vais pas aller dans tous les labos de France et de Navarre prendre la main des chercheurs pour leur dire « t'appuies sur le bouton là pour faire ça ». Il faut des relais dans les labos. Dans les MSH, dans les réseaux, le rôle des réseaux est important. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est que l'outil Humanum, le service Humanum, il arrive au bon endroit, au bon moment dans le processus. Ça ne sert à rien d'ouvrir des comptes Nacala à des gens qui n'ont pas envie de partager leurs données, presque envie de dire. Voilà. Un jour, j'en discutais avec je ne sais plus qui à l'Institut SHS, un DAS de l'Institut, et qui me disait « Ah, il faudrait que dans ma communauté, il y ait du Nacala et tout ça. » J'ai dit « Oui, mais si ta communauté n'est pas prête, ou si tu as d'autres dispositifs qui sont là, ça ne sert à rien de forcer les gens à aller à un endroit où ils n'ont pas envie d'aller. » Voilà. Et je faisais le lien avec l'Ethno et la plateforme OTSAS de Laurent Doucet. Je disais à un collègue ethnologue, je disais « Mais avant de venir à Humanum, va voir la plateforme OTSAS. » qui est fait au credo, parce que peut-être qu'elle correspond mieux à tes besoins. Alors, mon collègue en linguistique me disait, pas très longtemps, je lui disais, je voudrais mettre mes données dans un calage. Je dis, halte au feu, va dans Cocoon d'abord. Parce que dans Cocoon, la plateforme, tu as un dispositif de stockage. Ça a été dit tout à l'heure, la plateforme Cocoon, j'ai entendu son nom. C'est un dispositif de stockage adapté aux données langagières, aux données orales, etc. Donc ça correspond mieux aux besoins de la personne qui manipule ce genre de données. D'accord. Et surtout, si vous allez sur Cocoon, vous allez le voir. En fait, Cocoon, c'est quoi? C'est une couche métier au-dessus de Nacala. Puisqu'en fait, les données qui sont dans Cocoon, que les gens déposent dans Cocoon, en fait, elles vont dans Nacala, puisque Cocoon utilise comme moteur de stockage Nacala. Donc, ça, un collègue qui me dit « j'ai envie d'aller dans Nacala », je lui dis d'abord « va voir Cocoon, parce que peut-être qu'il y a une plateforme métier qui correspond mieux à ton besoin que notre Nacala générique ». C'est ça qui est important. C'est pas grave que les communautés n'y arrivent pas ou n'y arrivent pas tout en même temps. Il faut qu'elles y arrivent au bon moment dans leur processus et que ce soit bien maîtrisé, inclus dans leur processus de projet de recherche.
Juste pour rebondir sur la question de Cocoon, ben, nous, on a des archives sonores, mais ce n'est pas de la parole. Et quand on avait contacté Nacala, ils nous ont dit « contactez Cocoon ». Oui. Mais du coup, on n'est pas complètement dans la parole. On n'est pas dans la musique non plus, donc on n'est pas totalement ethnologue. Donc du coup, effectivement, ça rebondit sur la présentation tout à l'heure. Quand on n'est pas complètement en phase avec un des groupes structurés, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand même?
Venez dans Nakala, à la limite, aidez-nous à faire en sorte qu'on modifie Nakala. Alors, c'est ce que je disais à Joachim tout à l'heure. Mais en aparté, venez nous dire comment Nakala doit évoluer dans votre communauté.
Mais on a essayé, mais ça n'a pas fait. Ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en contactant Nakala, ils nous ont dit d'aller voir Cocoon.
Oui, mais peut-être que... Et... OK, si Cocoon ne vous va pas, vous revenez nous voir à Nakala et on rediscute de votre problématique de données.
OK. Bonjour. Moi, j'avais une question assez pratique par rapport à Imoco. Oui. Que j'ai essayé d'installer là récemment sur le site web de notre unité. On avait brièvement échangé sur Twitter là-dessus. Et le problème auquel j'étais confrontée, c'est que la thématique reste assez générale, je trouve. Donc, nous, on a des spécialistes d'histoire antique, des numismates, un peu toutes les... Voilà. Et ce que j'ai essayé de mettre en place, c'était beaucoup trop large par rapport à leurs besoins. Est-ce que j'ai mal fait ou...
Non, pas du tout. Je pense pas. Alors, je pense que votre retour, il est très intéressant parce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir dans notre ontologie de discipline des choses plus fines. Effectivement, on va pas être capable dans Imoco, ni dans Isidore d'ailleurs, d'avoir quelque chose, un filtre par exemple sur uniquement, je veux des documents en histoire antique ou je sais pas, en histoire romaine. Il y a des collègues qui m'ont dit, mais on voudra un moteur de recherche sur les textes grecs. Enfin, ils travaillent sur les textes grecs, ils voulaient faire que sur ça. Alors, c'est vrai que c'est un des défauts de notre dispositif Isidore en général, c'est que c'est une plateforme qui est un peu macro, puisqu'elle couvre toutes les disciplines des SHS. Mais votre retour, il est intéressant. On va voir comment on peut aller dans quelque chose de plus fin.
Moi, j'ai une question sur les relais dans les unités, dans les unités de recherche.
En dehors des MSH.
Ou même dans les MSH. Moi, je fais le constat que en organisant des... l'idéal, ma question, c'est ça. L'idéal, ce serait que nous, on puisse faire ce que vous avez présenté là, nous-mêmes, dans les unités, compte tenu que si on veut... faire connaître l'information auprès des chercheurs. Des fois, on parle à 5 personnes, donc on va pas faire déplacer une personne pour 5 personnes. Donc, on peut le faire 10 fois pour 2, on peut le faire... c'est beaucoup plus souple. Simplement, par quel moyen moi, j'ai pas toujours l'occasion... Enfin, j'ai une plateforme ShareDoc, mais j'ai pas l'occasion d'utiliser encore Nakala. Ça peut venir, mais j'ai pas encore de pratique. Donc, par quel moyen on peut acquérir suffisamment d'expérience et de connaissances générales sur l'ensemble pour pouvoir aller l'expliquer?
Alors, on est en train de réfléchir à deux dispositifs pour répondre à ça, parce qu'effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Le premier dispositif, c'est qu'on va refaire des actions nationales de formation centrées sur les services du Manum à partir de l'année 2018. Je ne peux pas vous dire de date encore, etc., parce que c'est une chose qui est à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire simple dans la mesure où il suffit qu'on réunisse tout le monde 3 jours à Fréjus ou à Ossoy pour que ça marche. C'est pas facile non plus, c'est pas forcément facile parce que nos services, comme vous l'avez vu, ils évoluent. Qu'on est en train de... On fait en sorte à Humanum depuis 2 ans qu'aucun des services d'Humanum ne repose sur le travail ou la maintenance d'une personne. Maintenant, Humanum, tous les services, c'est au moins 2 à 3 personnes. D'accord ? Donc on est en train de grossir en fait en termes de RH, nous-mêmes. Et c'est bien, mais ça veut dire que nos services ils évoluent et qu'on doit tenir compte, si vous voulez, si je vous dis on fait une formation en fin d'année 2018. Sur ça, il faut que je pense que la formation fin 2018, ça sera la version de Nakala de fin 2018. Or, la version de Nakala de fin 2018, je suis dans le cahier des charges en ce moment, quoi. Donc, il y a un peu un enjeu derrière d'évolution. Mais une des actions qu'on est en train de faire, c'est de monter des formations non pas sur comme on faisait avant, sur l'interopérabilité, le web sémantique, etc., mais vraiment de faire une action nationale de formation pour former des gens à Nacala, à etc. Parce que maintenant, on commence à avoir un gros... Voilà. Ça, c'est la première action. La deuxième action que j'espère pouvoir faire en 2018, c'est un gros échec de 2017, j'ai envie de dire. C'est le gros échec de 2017 pour Humanum. C'est qu'on n'a pas... En 2017, on s'était fixé pour objectif de bosser avec l'INIST, et en particulier, j'en ai beaucoup parlé avec Paolo Olé à l'INIST il y a deux ou trois fois en 2017, pour monter des tutoriels vidéo avec la plateforme de formation de l'INIST sur les services de Nacala, pour pouvoir avoir des... Alors, moi, je ne connais pas bien l'INIST, ils font ça très bien, mais je ne connais pas les dispositifs de médiation. Bien les dispositifs, ça va presque vers le MOOC, j'ai envie de dire. Ça, moi, je ne connais pas bien. C'est un domaine que je ne connais pas du tout. Je pense qu'il y a des vrais pros là-dessus, etc. Et ça, donc, c'est un gros échec pour 2017 parce qu'on a manqué de temps et dans l'équipe, on n'a que deux personnes pour faire ça à Humanum. Et on n'a pas réussi à le faire en 2017, ça c'est clair. C'était un gros échec pour nous. Mais par contre, en 2018, on va essayer de le faire. On va essayer de le mettre en place. Il faut que dans l'équipe, on arrive à trouver 2-3 jours de temps libre pour aller à Nancy, à l'INIST, voir Paolo, l'équipe, et monter le truc, quoi. Voilà. Leur passer les commandes, eux, d'abord, et puis ensuite, eux, ils se débrouillent. Ils montent leur dispositif. C'est d'autant plus embêtant qu'on a réussi à le faire avec le Canada. J'ai réussi à le faire en 2017, en avril, avec l'Université de Montréal. J'ai pas réussi à le faire avec Paolo cette année. Mais on va le faire en 2018, j'espère.
Bien. Paolo Lai étant mon responsable de département, je vais voir ce que je peux faire pour faire avancer.
Dis-lui de me harceler par mail.
Bon, je passerai le message.